Bienvenue dans ce nouveau Madame Talk, aujourd'hui avec la rappeuse Tracy Dessa. Alors Tracy Dessa est née en Inde, mais a émigré au Portugal avec sa mère et son frère quand elle était petite, puis en Espagne, en Andalousie, où elle a passé son adolescence. Elle est ensuite arrivée en France, où elle est restée 3 ans à Montpellier, avant de s'installer à Lyon, puis à Paris il y a quelques semaines. Elle nous parle aujourd'hui de sa musique multiculturelle, qu'elle qualifie de hip-hop créatif, mais aussi de son militantisme. En effet, depuis ses premiers pas dans le rap, Tracy Dessa revendique un féminisme intersectionnel et inclusif qui lui vaut notamment d'être régulièrement confrontée à la censure et au harcèlement sur les réseaux. Elle vient d'ailleurs de sortir le clip Mini Falda, qui est un véritable hymne body positif dans lequel elle encourage toutes les femmes à assumer et contrôler leur corps.
Vu le contexte sanitaire actuel, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai envie de te demander comment ça va et comment tu vis cette crise du Covid en tant qu'artiste.
C'est une question très compliquée parce que c'est vraiment n'importe quoi ce qui se passe en ce moment. On est très embêtés en tant qu'artiste. Au niveau de l'intermittence, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus d'ateliers, on ne peut rien faire et les petits lives qu'il y a sur Instagram, ils ne sont pas forcément rémunérés, donc c'est très compliqué de pouvoir développer son projet dans ces conditions, mais c'est le moment parfait pour travailler et produire, écrire, plus réfléchir au concept de son projet, plus réfléchir à son image, regarder, prendre le temps d'analyser ce qu'on a fait dans le passé pour voir ce qui reste à améliorer, tout ça. Donc moi, en tout cas, je prends le temps pour faire ce genre de choses, même si on est très frustré du fait que ça avance pas comme on l'avait prévu.
D'un point de vue des concerts, est-ce que tu peux quand même maintenir certaines dates où tout a été annulé?
J'ai tout qui est annulé. En fait, j'ai encore 2 dates en décembre, mais en fait, à chaque fois que je dis ouais, j'ai une date ce mois-ci, ça s'annule en dernière minute. En plus, encore là avec le couvre-feu, c'est encore pire. Pour l'instant, il n'y a pas de concert en journée. En tout cas, moi, j'ai pas été programmée sur des concerts en journée. Du coup, il y a vraiment rien en perspective, quoi. C'est ça qui est compliqué. On a des dates pour le printemps prochain. Ouais. Du coup, j'annonce rien parce que je sais pas comment ça va se passer au printemps non plus. Et du coup, je préfère rien dire et annoncer à la dernière minute que annoncer des annulations à chaque fois. C'est dur pour le public de suivre aussi et c'est compliqué à gérer.
Du coup, tu as l'impression que cette période redéfinit un peu l'activité de rappeuse?
Je pense que ça reflète bien la précarité dans laquelle on vit, le manque de stabilité, le manque de moyens qu'on peut avoir au quotidien. Si avant on vivait des concerts, s'il n'y a pas les concerts, on n'a rien. On n'a rien, rien que l'intermittence, elle se construit avec les cachets. Si on n'a pas de cachet de date, c'est très dur d'aller chercher des cachets de studio, c'est très dur d'aller chercher des cachets pour des clips, etc. Donc, on dépendait vraiment des dates. Et si on nous enlève ça, on nous enlève le cœur de notre métier. Et ça nous enlève le contact avec les gens, et c'est ça qui nous fait vivre aussi. Donc, en fait, c'est très frustrant professionnellement, mais c'est aussi personnellement, parce que nous, on est nourris de l'énergie du public, des retours qu'on a, de l'énergie qu'on a quand on joue devant les gens, des réactions, la relation avec la presse et tout ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec rien. Les ordinateurs, la technologie, c'est très bien. Heureusement qu'on a ça pour pallier, mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose.
J'ai vu récemment via Instagram que tu avais déménagé à Paris, si je ne me trompe pas.
Exactement, oui.
Est-ce que ce choix, il est lié au confinement et au contexte sanitaire ou ça n'a rien à voir?
Non, c'est un choix que j'avais fait déjà avant. Donc moi, depuis l'année dernière, je savais que cette année, je voulais déménager à Paris. Par contre, ça a été très dur. Pendant tout le confinement, j'ai pas pu chercher d'appart parce qu'en ligne, c'est pas possible. Les visites virtuelles, il y en a un, deux qui vont te dire « Ok, mais après, t'as pas de relation avec les agents, tu peux pas vraiment voir les conditions de l'appart, les quartiers, etc. » Et une fois que je suis arrivée sur Paris pour être en recherche active pendant l'été, c'était la saturation parce qu'il y avait tellement de monde qui cherchait un appart que c'était ignoble en fait. On était 50-60 personnes à visiter des apparts. On faisait la queue à l'extérieur, même dans la rue. C'était horrible en fait. On a l'impression qu'on va jamais trouver un appart à Paris. Du coup, j'ai réussi à trouver, mais ça a été des contacts. Et heureusement que là, je suis bien installée et tout, mais c'était très compliqué. Ouais.
Est-ce que c'est quelque chose qui, tu as l'impression, va accélérer ou permettre de mieux développer ta carrière, d'être à Paris? Parce qu'avant, tu étais à Lyon, hein, c'est bien ça?
Exactement. Donc, en fait, je me suis rendu compte, j'ai déjà fait 3 ans à Montpellier d'abord quand je suis arrivée en France. Après, j'ai fait 5 ans à Lyon. Et je me rends compte qu'en fait, tout se passe à Paris finalement. C'est horrible à dire, mais Il y a très peu de dispositifs, il y a très peu de ressources quand on est en province. À Lyon, ça reste une grande ville, mais c'est pas une ville qui est forcément connue pour l'hip-hop. C'est une ville qui est plutôt connue pour le techno et la house, donc c'est pas, il y a pas énormément de choses à faire dans l'hip-hop. Il y a des open mic, etc. Mais en termes des médias, ça reste très local. Il y a pas vraiment les télés, les grandes radios nationales, elles sont toutes à Paris. La majorité des grands studios sont à Paris. En fait, tout le réseau, il bouge vraiment à Paris. Donc, je me sentais assez limitée à Lyon. Limite, en fait, je venais à Paris une fois par mois. J'ai resté 10 jours et quand je repartais à Lyon, bah, je m'ennuyais là-bas parce qu'en fait, tout mon taf était concentré à Paris.
Et avant ça, donc, tu disais que tu as vécu à Montpellier. Avant, tu étais en Espagne. Avant, au Portugal. Et avant, tu étais en Inde. Parce que du coup, c'est un virus que tu as pris aussi de bouger régulièrement et de partir quand tu sens que tu as fait un peu le tour de l'endroit où tu te trouves.
Oui, en fait, je pense que ça, c'était pas une migration qui a été voulue à la base. C'est ma famille qui a bougé, c'est ma mère qui a dû bouger. Du coup, j'ai suivi. À la base, c'était pas une volonté de ma part de bouger. Je me rends compte aujourd'hui, en fait, j'ai juste suivi la même logique parce que moi, on m'a appris qu'il fallait toujours aller chercher ce qu'on voulait de notre vie. Moi, je sais que je pouvais pas forcément avancer si je reste en Espagne. Je pouvais pas forcément avancer si j'ai resté à Montpellier. Bah, c'était la ville qui avait le plus de chômage quand j'habitais là-bas, il y a 6 ans, un truc comme ça. Et du coup, en fait, à chaque fois, ça me montre que s'il n'y a pas ce que je veux dans la ville dans laquelle je suis, bah, en fait, je cherche pas, faut que je bouge, quoi. Je me conforme pas avec ce qu'on me donne. Moi, il faut que j'aille chercher ce dont j'ai besoin.
Bon, tu parles anglais, tu parles espagnol, tu parles portugais, tu parles français. Est-ce qu'il y a une langue parmi toutes celles-là dans laquelle tu es plus à l'aise pour rapper? Et si oui, laquelle et pourquoi?
Ouais, du coup, je pense que je suis plus à l'aise en anglais parce que c'est ma langue maternelle et c'est la langue dans laquelle j'ai le plus de vocabulaire. Et c'est une langue qui est très mélodique aussi. C'est une langue qui bouge bien au niveau des sonorités, etc. On peut pas mal jouer avec l'anglais. Je rappe aussi en espagnol parce que c'est ma deuxième langue. J'ai grandi en Espagne, donc je le parle couramment, mais c'est vrai que ça a une autre sonorité. Et moi, j'ai grandi en Andalousie, donc j'ai un accent andalou quand je parle espagnol. Du coup, c'est pas le truc le plus ghetto quand on rappe en espagnol, en fait. Et maintenant, en France, je commence à rapper en français, mais j'ai fait encore des fautes d'accord, j'ai fait encore des fautes quand j'essayais de faire des punchlines, parce que le français, il est très complexe, il y a plein de nuances entre les mots et les expressions et tout. Du coup, j'essaye de travailler, mais c'est pas encore évident pour moi de rapper en français.
Est-ce que tu as l'impression que le fait que tu rappes moins en français te pénalise ou pénalise ton développement en France?
Oui, effectivement, c'est une réalité. Pour moi, c'est la réalité du marché. En France, il y a une histoire du hip-hop qui existe depuis des décennies. Et du coup, c'est ce rap français qui est mis à l'avant, qui est valorisé. Et du coup, moi, je rentre pas forcément dans cette case, ni par rapport à la langue, ni par rapport aux sonorités, au style... qui sont plus mis en avant en France, dans la trappe qui est très dark ou qui est très à texte. Et moi, je suis plutôt dans une musique très colorée, très dansante, donc c'est pas forcément ce que les Français ont l'habitude d'entendre. Mais je sais que je ferai mon chemin en France parce qu'il y a quand même une demande par rapport à une musique comme la mienne, mais que ça sera un chemin un peu plus long. Mais j'arriverai.
Et par rapport à ton audience ou au retour que tu peux avoir de personnes qui écoutent ton travail, est-ce que du coup c'est une audience très multiculturelle ou c'est une audience franco-française qui est attirée par des sonorités différentes?
Non, c'est très multiculturel. Même les Français qui m'écoutent, c'est souvent des Français qui ont déjà voyagé ou qui ont été en contact avec des hispanophones ou des anglophones. C'est souvent des gens qui viennent qui ont été habitués au voyage et qui ont une ouverture d'esprit assez, assez grande. Après, je pense que je commence à fidéliser aussi les Français par rapport à ma technique. Parce que je débite pas mal quand je rappe. Donc, les Français sont très attirés par ça. Les flows très rapides, les flows très saccadés. Le fait de pouvoir jouer avec les différentes langues, c'est quelque chose qui interpelle aussi les Français. Et qui se disent, ok, d'accord, la meuf, elle sait rapper en anglais, mais en fait, elle peut te mélanger 3 langues dans une chanson. C'est pas mal aussi, c'est des choses qui impressionnent. Et du coup, c'est pas forcément des gens qui vont adhérer tout de suite, mais c'est des gens qui vont déjà reconnaître ton talent. Donc, en fait, ça commence par ça. Et au fur et à mesure, là, je travaille sur la fidélisation du public et j'espère que ça va venir au fur et à mesure.
Je te propose justement d'écouter le titre « Por aquí ». Qui signifie Paris, yes, en espagnol, et qu'on peut retrouver sur ton premier album Commotion, qui est sorti en mai 2019, si je ne dis pas de bêtises.
troisième étage fond du palier. On me dit grand bien danser, y a du monde, on va se marrer. Donc j'y vais, j'essuie les pinks, on rentre, c'est ambiance, ce disque en soirée privée, on est en week-end, j'aurais dû dire j'étais pas dispo. Tout est propre, c'est bien classe, la musique est douce, ça passe. On me donne un tout des verres, s'amuser sans laisser des traces. Ça va déraper, le monde orangé à l'entrée, est-ce qu'il faut pas toucher les coussins sous le canapé? What?
Let me show you how we do.
Donc avec ce morceau, Por Aquí, tu avais concouru pour représenter la France à l'Eurovision en 2019. Est-ce que c'est toi qui as fait les démarches ou est-ce que c'est ton entourage qui t'en a parlé? Comment ça s'est passé?
En fait, ça a découlé du Printemps de Bourges parce que j'avais été inouïe en 2018, il me semble. Et en fait, là-bas, j'avais rencontré pas mal de monde. Mon projet avait été exposé à plein de pros niveau national. Et du coup, j'avais été contactée par The Voice pour participer à leur émission, sauf que c'était pas quelque chose qui me correspondait. Moi, je suis pas très fan de faire des covers, je suis plutôt fan de pouvoir écrire mes propres titres, de pouvoir les représenter et de pouvoir les exposer, mais parce qu'ils reflètent ma personne et mon histoire. Du coup, au début, j'avais dit non, et en fait, quelques mois après, ils m'ont proposé ce projet de Destination Eurovision dans lequel je pouvais participer avec mon propre titre. Donc, ils avaient bien écouté mes demandes. Et donc au début j'étais très réticente parce que c'est pas forcément une émission dans laquelle on met en valeur le rap, c'est pas forcément une émission qui est très respectée dans le milieu du rap non plus, c'est une émission qui met grave en valeur la musique française et je savais que j'allais avoir du mal à retrouver ma place là-dedans, mais en même temps le rap est la musique la plus écoutée en France, il mérite d'être représenté dans des émissions en télé comme Destination Eurovision. Du coup, j'ai pris le risque, même si je savais que ça allait être quitte ou double. Je me suis dit, vas-y, j'y vais, j'ai rien à perdre. J'étais en début de développement et je savais que j'allais pas forcément être très bien reçue par le fait que je suis pas française. Mais je me suis dit, la France est un pays qui vit de sa diversité, dans lequel il y a plein de gens différents. Et ça aussi, ça mérite d'être représenté. Et donc, moi, rien que pour ça, j'y vais parce que je veux que des gens chez eux ils puissent s'identifier avec quelqu'un qui passe sur cette émission. Et donc j'ai pris le risque, je suis allée, il y a eu des bons trucs et des mauvais trucs, je me suis fait beaucoup critiquer, mais j'ai reçu plein de messages de soutien et ça m'a ouvert des portes dans d'autres pays européens où j'ai pu après créer des contacts et des partenariats et tout ça, donc ça a été intéressant aussi.
Par qui tu t'es fait beaucoup critiquer ?
Par des gens sur les réseaux sociaux. Mais après, il y a eu un truc dont on m'a beaucoup fait la réflexion aussi pendant que j'étais dans l'émission. Une des juges, c'était Vita. Et justement, il y avait un autre juge, je me souviens plus son nom, qui avait justement fait une réflexion sur le fait que c'était bien qu'il y ait des femmes qui représentent l'hip-hop et tout ça, parce que c'était des fois compliqué pour nous. Et Vita, elle a répondu en disant, non, moi j'ai toujours traîné avec des rappeurs et moi j'ai jamais eu de problème. Et du coup, moi, je pouvais pas forcément répondre comme ça. J'étais filmée et tout, mais j'ai eu plein de commentaires, enfin, et des messages en soutien en disant il y a des gens qui se rendent pas compte de la réalité que nous on vit les femmes dans le rap game parce qu'il y a vraiment beaucoup d'obstacles et qu'elles soient à la télé et qu'elles disent que ça n'existe pas. Ces obstacles-là, ça a été nié une réalité dans laquelle nous on vit, on galère tous les jours. Et ça, c'était un truc qui m'avait choquée parce que du coup, en tant que femme, j'aurais attendu qu'elles me soutiennent encore plus. Oui. Et en fait, on a fait l'inverse. Mais bon, chaque personne vit les expériences différemment. Mais ça a été dommage que c'était le moment pour parler de ça publiquement et c'est passé à la trappe, en fait.
Est-ce que tu réponds aux commentaires sur les réseaux sociaux, qu'ils soient positifs ou négatifs ?
Ça m'arrive. Des fois, en fait, je prends juste des screenshots, des captures d'écran et je les mets sur mes stories. Donc, pour dire que les gens regardent ce que les gens disent, pour un peu exposer les critiques, etc., mais sans forcément répondre. Et je me souviens qu'après la Destination Eurovision, en fait, moi, c'était une super expérience pour moi. Ça avait été super fun et j'avais appris plein de choses parce que c'était compliqué. Je suis arrivée, il fallait que je me souvienne de mes paroles, plus que j'ai travaillé la justesse, plus une choré qu'on m'avait préparée, plus comment gérer 5 caméras, à quel moment fallait regarder chaque caméra et tout, plus la pression, plus le maquillage, tout ça. Moi, c'était une journée que j'ai trouvé très enrichissante. Ça m'avait appris beaucoup de choses. Mais je suis arrivée chez moi, j'ai commencé à lire les commentaires et je me suis effondrée parce qu'il y avait des trucs vraiment méchants et je pense que j'étais pas prête. Et j'en ai parlé dans mes réseaux sociaux. J'ai dit qu'il y avait des trucs hyper positifs, mais que dans tout ça, il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis le lendemain où ils disaient que j'avais été éliminée, que j'avais pas ma place là-dedans. Beaucoup de gens qui ont sorti des commentaires racistes en me disant que c'était une honte que quelqu'un qui soit pas français prétendent de représenter la France alors que j'avais rien à représenter parce que j'étais pas française. Des gens qui me disaient que je chantais mal dans trois langues, enfin plein de choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas contents de mon histoire, de ce que j'ai vécu et qui parlent sans savoir en fait. Et c'est ça qui est le plus blessant.
Et qui sont ces gens? Est-ce que ce sont ce qu'on appelle juste des trolls ou est-ce que c'est des gens de ton public qui écoutent quand même ta musique?
Je pense que non, il y avait là j'étais exposée à un grand public pour la première fois, donc c'était des gens qui me connaissaient pas. Au contraire, les gens qui me connaissaient, même si au début ils n'avaient pas forcément écouté mes sons, au contraire ils ont grave soutenu en mode ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui a commencé avec nous mais qui est maintenant à la télé et tout ça. Non, au contraire c'était des gens qui me connaissaient vraiment pas et qui connaissaient rien à ma musique, qui m'ont juste vu sur l'émission télé, qui m'ont connu sur ça et qui se sont permis de juger directement sur ce qu'ils avaient vu sans aller forcément se renseigner.
C'est quand même très violent d'être exposé à des commentaires comme ça, des attaques personnelles, du harcèlement en ligne. J'ai l'impression que malheureusement, c'est très courant aussi pour les femmes artistes ou même les femmes qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Quel est le recours que tu peux avoir pour décompresser? Est-ce que tu peux en parler à des gens? Est-ce que tu peux te soulager de ça auprès de certaines personnes? Et si oui, comment tu fais?
Moi, je me suis rendu compte que, en fait, il n'y a pas vraiment de solution miracle, mais il faut beaucoup travailler sa confiance en soi. Il ne faut pas se laisser tirer vers le bas par les remarques que ces personnes peuvent faire. Parce que même après Destination Eurovision, même en postant des photos sur mon Instagram, je reçois des commentaires comme ça. Mais au fur et à mesure, je me suis dit, plus je poste et plus les gens ils sont prêts à critiquer, en fait, ça veut dire que je suis en train de faire un truc qui les choque. Et ça veut dire que je suis en train de bien faire mon boulot parce que je suis pas là pour me conformer aux règles et pour faire ce que a déjà été fait. En fait, moi, je suis là pour innover, je suis là pour créer, je suis là pour être moi-même. Et si ça dérange les gens, c'est leur problème, c'est pas le mien. Et donc aujourd'hui, la seule solution que je vois, c'est vraiment de me focaliser sur moi, travailler mes traumas du passé pour pas que ces choses puissent me blesser parce que c'est surtout des gens qui me connaissent pas, qui me critiquent. Après, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de gens de mon milieu aussi qui m'ont critiqué, beaucoup de copines à moi, qui sont pas forcément d'accord avec les choses que je suis en train de faire au niveau de mon corps, au niveau de comment je m'exprime, ou par rapport aux sujets sur lesquels j'ai décidé de m'exprimer aussi. Mais pareil, en fait, c'est mon parcours, c'est ce que pour moi est important. Et du coup, s'il faut faire le tri dans les gens qui nous entourent, pour moi, c'est important de le faire parce que moi, je trouve que j'ai un message apporter et ce message il est plus important que les relations que je vais avoir.
Tu disais que tu avais reçu aussi pas mal de messages de soutien. Est-ce que tu as reçu aussi des messages de soutien de la part d'autres rappeuses?
Ouais, j'ai reçu du soutien d'autres rappeuses, surtout au niveau de Destination Eurovision à chaque fois que je sors des singles, etc. Mais c'est vrai que pendant le confinement, j'ai senti un peu une séparation. C'est comme si le réseau des rappeuses avait un peu éclaté là pendant le confinement avec le mouvement des Black Lives Matter. Parce que c'est vrai que moi, j'ai vite pris position parce que je voulais absolument qu'on tienne en compte les problématiques intersectionnelles, même quand on parle de rap et quand on parle de rap, des femmes, bon, c'est entre guillemets parce qu'il n'y a pas de rap de femmes, mais oui. Quand on parle de plus visibiliser les rappeuses dans le milieu, et je vois que j'ai eu très peu de soutien par rapport à d'autres rappeuses blanches. Et au contraire, à la limite, elles ont pris la distance parce qu'elles ont vu que j'avais des idées très fermées, entre guillemets, mais très claires, et que je voulais pas du tout rigoler avec ces thématiques. Everybody was a feeling. Couldn't just switch the feeling inside the feeling. Windows always closed, took a bite to give a breathing. When I was a super fan.
friends and the flowers can grow with some men down the stone. Cause I didn't know how, didn't know why. Scape or comply, hold on to her intact. Cause it's sweet that you know it on me. And the dust on the shelf that would hold me. And he showed me the past that was stony. The days that was stormy with crowds that were lonely. Last him down slowly, the years seemed so ghostly. I made it well after they're holy. My knees on the ground, dimming that frowned. Hoping for something a ladder or sound. Cutting the doubt, I invade us around. The first time that I saw that the walls were profound. When the walls are too profound, you gotta break it down. Don't kill my vibe. Je suis au top, je suis en extase. Même les murs bavards, ils racontent les dégâts de mon dernier freestyle. Enchanté, premier regard et feeling enclenché. Y'a mon sixième sens qui me dit de songer à bâtir où les esprits ne sont pas en chantier. Ma star, je suis en pleine forme, rien ne se perd, tout se transforme. When the world's profound, je l'ai fucked up. J'ai choisi le train du destin pour le transport. Seul sur les rails, somme sous les bras. Des montagnes s'il le faut, mais on survivra. Nouveau départ, nouveau décor, ça t'étonne. J'ai pas appris la vue sur les bancs d'école. Original catégorique et Tracy là pour tout casser, frérot. Imbécile. Damn.
Donc ce morceau, c'est le deuxième single extrait de ton album Commotion, donc en duo avec la rappeuse suisse catégorique. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrées toutes les deux?
Eh ben, c'était par hasard, en fait. Moi, j'ai toujours suivi catégorique. Je trouve que c'est une rappeuse avec énormément de techniques. La meuf, elle improvise. Elle a vraiment énormément de talent. Je l'ai découvert aussi sur son film Brooklyn. Et du coup, je la suivais depuis des années et tout. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler avec mon album, je me suis toujours dit, je suis trop chaud pour lui envoyer des trucs, mais j'ai senti que j'étais pas encore prêt, j'étais pas au niveau et tout. Et en fait, j'avais fait une date en Suisse et il se trouve que sa manager, c'était là-bas. Donc, en fait, c'est les organisatrices de ces concerts qui m'ont dit « Ouais, il y a la manager, c'est catégorique. » Et je me suis dit « Bah, écoute, j'y perds rien, je vais aller lui parler, je lui demander comment ça se passe et tout. » Et donc, elle m'a dit « Mais bien sûr, je sais qui t'es, on a déjà parlé de toi avec catégorique et tout. Donc, vas-y, si t'as quelque chose à envoyer, tu peux l'écrire directement sur Instagram, et c'est qui t'es, donc n'hésite pas. » Et du coup, je lui ai écrit quelques semaines après, quand je voulais lui proposer ses titres, et elle m'a tout de suite répondu. Elle était là, mais meuf, mais bien sûr. En plus, elle est trop bonne vibes et tout, elle est trop ouverte. Et du coup, je lui ai fait venir à Lyon. Et on a fait ça en une journée, en fait. Elle est arrivée, moi, je travaillais le matin. Il est arrivé entre midi et deux, on a mangé, mais on est allé tourner. On est allé enregistrer le son, on a tourné le clip en même temps. Et le lendemain matin, elle est répartie, en fait. Ça a été très, très, très rapide.
Est-ce que vous aviez déjà choisi la prod avant ou vous avez tout décidé ensemble?
Non, on avait déjà choisi. En fait, moi, je lui avais proposé deux chansons qui étaient déjà dans mon album, qui étaient déjà écrites, qui étaient déjà finalisées. En fait, il manquait juste son couplet. Et du coup, elle a choisi Was Profound.
Et tu as aussi participé à la deuxième édition de son Biggest Female All-Star Cypher. J'espère que je l'ai dit dans le bon ordre.
Yes, c'est ça.
Qui a réuni 21 rappeuses de 9 pays différents. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée sur ce projet?
Avec Catégorique, on est toujours un peu en contact, on s'écrit de temps en temps. Elle avait fait une date en Suisse sur laquelle je devais y aller aussi. Du coup, j'ai joué sur son set. Enfin, on est toujours un peu en contact et elle m'avait proposé de participer à la première édition. Sauf que comme j'étais confinée chez moi, bah, j'avais pas de matos, j'avais pas de micro pour m'enregistrer, donc j'ai pas pu participer à la première. Et du coup, j'ai attendu la deuxième où là, on était déjà déconfinés et j'ai pu aller dans un studio enregistrer mes voix et après, j'ai pu faire la petite vidéo chez moi. Mais du coup, bien sûr, j'avais envie de participer de ouf parce que c'est un projet hyper important et parce qu'il faut qu'on soit plus, qu'on se soutienne plus. Il faut que, du coup, moi, je commence à avoir une petite plateforme. Donc, moi, je mets souvent en valeur d'autres filles sur mes réseaux parce que c'est important. Parce que moi, quand j'ai commencé, d'autres filles l'ont fait pour moi. Donc, il faut se passer le relais. Donc, pour moi, c'était hyper important de participer, de pouvoir l'aider. Du coup, je l'ai aidé un peu avec la logistique du projet et tout ça. Donc, c'était cool. C'était une super bonne expérience aussi. Et j'espère qu'on pourra sortir d'autres éditions avec encore plus de rappeuses, qu'on puisse découvrir encore plus de monde et faire des trucs encore plus ouf, quoi.
Est-ce que cette initiative t'a permis, toi, de rencontrer d'autres rappeuses ou de créer des liens avec elles, peut-être pour de futures collaborations ou autres?
Grave. En plus, il y avait des rappeuses qui m'avaient déjà écrit, mais que j'avais pas forcément regardé et tout. Mais comme elles m'ont tagué après sur le truc et j'ai vu qu'elles étaient, en fait, j'ai pu aller après écouter leurs sons. Et même des rappeuses d'Amérique latine que je connaissais pas forcément. Ben, j'ai pris le temps d'aller écouter ce qu'elles faisaient, les projets, soutenir leur page Instagram, les lâcher des likes sur YouTube, parce que tout ça c'est important, tout ça c'est du soutien dont on a besoin. Et pour l'instant, il n'y a pas de collaboration en cours, mais déjà, c'est des super belles rencontres qui sont humaines, mais professionnelles aussi. Et du coup, c'est cool.
Ça reste hyper rare, en France en tout cas, même si là, les choses changent ces derniers temps, mais de voir des collaborations de rappeuses, alors que les rappeurs, c'est monnaie courante. Pourquoi, d'après toi, pourquoi c'est si difficile de voir plusieurs rappeuses sur un même titre?
Je pense que déjà, il y a une fausse image, comment dire, c'est un mythe. Par exemple, il y a déjà un mythe qu'on a depuis notre enfance, c'est qu'on peut toujours avoir qu'une meilleure amie. Il faut qu'on choisisse toujours une fille qui est notre fille préférée, enfin notre amie préférée. On n'a pas le droit d'être un groupe de 3, 4, 5 filles et de tous s'aimer au même niveau. On nous vend cette image qu'il faut toujours avoir une meilleure copine. Et c'est comme s'il y avait toujours la place que pour une femme. Hein, dans la musique, les musiques actuelles et dans le rap surtout, on a toujours cette impression. Et il faut que ça soit toujours une femme qui soit en tête et pas deux et pas trois. Alors qu'on voit très bien dans le système américain que ça, ils sont en train de casser cette image-là. Parce qu'aujourd'hui, tu as plusieurs rappeuses qui sont très talentueuses, qui coexistent et qui sont dans les billboards et tout. Et en France, c'est un truc, c'est encore très très dur. Il y a encore un plafond de verre qui est très dur à briser parce qu'on a encore cette image qu'il peut avoir qu'une seule rappeuse qui perce. Et pour qu'une autre rappeuse perce après, bah, il faut que l'autre qui était avant, bah, il faut qu'elle disparaisse. Et du coup, on a du mal à se mettre en avant. Nous, entre rappeuses, bah, on a l'impression que ça va nous enlever peut-être de la visibilité ou quoi, alors qu'au contraire, nous, à chaque fois que je parle avec d'autres rappeuses, on est là en mode, vas-y, viens, on va faire des trucs, vas-y, on se soutient et tout ça. Mais on a l'impression que c'est pas facile après de le vendre, le projet, en fait. Quand des rappeurs font un projet ensemble, bah, c'est tout de suite vendable, c'est tout de suite bankable, c'est en mode, ah ouais, trop stylé, et on aura le public de lui avec le public de lui, alors qu'avec deux filles, c'est en mode, mais du coup, ils ont pas le même public, mais est-ce que ça va le faire, mais du coup, ils ont pas le même style. Alors qu'il n'y a pas à se poser toutes ces questions-là. Si le son est bon, le son est bon. Mais du coup, on se pose beaucoup plus ces questions-là. Et après, je pense que les équipes aussi vont aller penser « Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait si elle est mise plus en avant et pas toi, tout ça ?» Alors qu'en fait, on s'en fout. Si on est ensemble, en fait, les deux, on va être mise en avant. Il n'y aura pas une sérapeuse mise en avant que l'autre.
On a tendance à toujours comparer à des rappeuses passées. On va comparer à Diams, à Kenny Arcana. On va essayer de trouver des ressemblances comme ça avec des rappeuses qui ont déjà existé, alors que peut-être on le fait moins aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup plus de rappeuses grand public en tout cas. Est-ce que toi, il y a des comparaisons comme ça qu'on te fait qui te fatiguent?
Ah oui, on va comparer à tout le monde, hein, mais moi, je rigole quand on me dit ce genre de choses parce que je me rends compte que les gens ont très peu de références. Et du coup, les gens, ils sont obligés de faire un rapprochement entre toi et notre rappeuse, juste que pour eux, ça ait du sens. Au lieu de t'écouter sans jugement ni rien, juste écouter et d'accepter pour qui tu es, ils ont besoin pour eux que ça ait du sens avec quelqu'un qu'ils connaissent du passé. Et du coup, des fois, on m'a comparé à Nicki Minaj, alors que je fais pas du tout la même musique que Nicki Minaj. On m'a déjà comparé à Mia. Bon, c'est vrai que physiquement, je ressemble à Mia, mais au niveau de ma musique, pas forcément. On m'a déjà dit que j'avais la plus de casée, alors que je trouve que pas du tout non plus, tu vois, on a des styles d'écriture qui sont très très différentes aussi, mais il y a des gens, ils ont besoin de faire un rapprochement pour que ça ait du sens pour eux, alors que c'est pas forcément la réalité des choses. Je sais pas si, bah, déjà nous, ça nous enferme dans des cases, c'est sûr, mais en fait, c'est très contradictoire, parce que si on fait une musique calquée sur Diams, par exemple, on va nous dire, ouais, mais c'est pas original, ça se voit que c'est une copie de Diams. Et donc, ouais, ça sert à rien ce que tu fais. Mais du coup, si je fais pas du Diams, on va quand même me dire, ouais, tu ressembles à Diams. Et c'est en mode, ouais, non, mais ça n'a aucun sens, là. Tu veux que je sois Diams ou tu veux pas que je sois Diams? Si tu veux pas que je sois Diams, bah, laisse-moi être moi-même. Et donc, il y a très peu de place pour l'innovation, finalement, quand les gens font que de te mettre d'étiquette.
Est-ce que, du coup, tu pourrais définir ta musique si tant est qu'elle soit définissable?
Moi, je décris mon style comme du hip-hop créatif. Donc, parce que j'ai les bases du hip-hop à l'ancienne, avec la technique, avec la mentalité. Mais je mélange beaucoup avec d'autres sonorités, plutôt latino, plutôt indien. J'ai une musique qui est très dansante aussi, donc j'ai plutôt pris le côté américain des années 90. Alors que le rap en France, il est très basé sur le texte, ben moi, mon son, il est plutôt basé sur la musicalité, sur le flow, sur les prods, sur les changements de vitesse, les changements de flow, le changement de sonorité dans la même chanson. Et du coup, moi, j'ai une musique qui est beaucoup plus ouverte et qui est beaucoup plus inattendue, je dirais. Je pense que je ne rentre pas vraiment dans les codes au niveau de mon son.
Est-ce que tu penses que c'est aussi une difficulté, le fait que tu ne sois pas facilement labellisable fait que tu es contrainte de rester sur un circuit peut-être plus alternatif ou que les médias grand public vont avoir du mal à te présenter de manière claire?
Ouais, c'est au niveau des médias, mais c'est aussi au niveau des bookers qui ont des fois un peu de mal à me placer au niveau des dates parce qu'ils ne savent pas si ça va correspondre à leur tête d'affiche ou ils ne savent pas si, par exemple, sur une semaine de musique urbaine, est-ce que ça va vraiment rentrer dans ce truc, s'il n'y a que des rappeurs français. Enfin, c'est un peu compliqué pour tout le monde, mais je pense qu'au fur et à mesure, plus les gens me voient sur scène, plus ils arrivent à comprendre ma démarche, parce que ma démarche, elle n'est pas que artistique, c'est un tout. C'est au niveau de l'image, mais c'est au niveau de mon militantisme aussi, c'est très complet en fait. Et je suis tout le temps en train d'innover, je suis tout le temps en train d'avancer. Et les gens qui m'ont vu il y a 3 ans sur scène, ils voient qu'aujourd'hui, le projet, il a beaucoup plus évolué. Et même aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec le confinement et le manque des dates et tout, je suis en train de chercher aussi un son qui sera plus axé radio, plus ouvert à l'étranger. Donc, ma musique, elle va continuer à évoluer. Peut-être que les étiquettes, elles vont continuer à changer. Et jusqu'au jour où les gens en auront marre de me mettre des étiquettes, parce que ça changera tout le temps. Et du coup, ils ne me mettront plus. Et donc, on verra dans le futur comment ça se passera.
Et tu évoquais ton militantisme. On va avoir l'occasion d'en parler plus dans la seconde partie de cette interview, avec 3 sujets d'actualité que tu as choisi d'évoquer aujourd'hui. La première thématique dont tu avais envie de parler, c'est est-ce qu'on peut séparer l'artiste de la personne, l'homme de l'artiste, qui est un peu la question, une question qui a été énormément posée ces derniers temps. Notamment, tu parlais de Moa La Squale, Romeo Elvis, Chris Brown et R. Kelly. Pour rappeler rapidement le contexte, donc il y a plusieurs femmes qui avaient accusé sur les réseaux des rappeurs d'agression sexuelle avec le hashtag balance ton rappeur. Pourquoi tu avais envie de parler de ce sujet?
J'avais envie de parler de ce sujet parce que je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point on a un pouvoir au niveau, enfin, le peuple a du pouvoir, on le dit tout le temps, mais souvent on ne se rend pas compte. Et on ne se rend pas compte, en fait, que ces gens-là qui sont mis en lumière, comme Moa La Squale, Romeo Elvis, c'est nous qui leur avons donné, en fait, l'espace pour être dans la lumière. C'est nous qui avons acheté des CD, c'est nous qui avons partagé leur son, partagé leur clip, etc. Donc, on a aussi le pouvoir pour leur enlever cette lumière, enfin la lumière des projecteurs. On a aussi le pouvoir de les cancel, comme on dit aujourd'hui. Et je trouve ça marrant qu'il y ait cette culture du canceling qui est en train de se mettre en place, parce que je trouve que c'est vraiment une réalisation du fait qu'en fait, on a un pouvoir en tant que public. Et je trouve que c'est hyper important qu'on ne cautionne pas tout ce qui est fait par les artistes, qu'on ne les protège pas et qu'on ne les exonère pas, parce qu'il y a des choses qui méritent d'être, s'ils ont commis des crimes, il y a des répercussions, il y a des conséquences, il faut qu'ils assument et on ne peut pas les protéger. Parce qu'il faut penser que, en fait, s'ils sont protégés, c'est parce qu'ils ont des moyens financiers, ils ont des réseaux que nous, on leur a donné, en fait. C'est tout un cercle vicieux. Nous, on a acheté leur CD, on a acheté leur place de concert, et donc, ils ont des moyens pour payer des gros avocats, pour aller se cacher dans d'autres villes, dans d'autres pays, etc. Et en fait, on peut leur retirer tous ces pouvoirs. Et je trouve que c'est important de se dire qu'on a cette responsabilité-là et qu'il faut l'utiliser.
Je ne sais pas si tu as vu sur Instagram un post récent de Moa La Squale sur ce sujet ou pas.
Oui, j'ai vu, il dit, ouais, elle est amoureuse, c'est une menteuse, elle n'est pas amoureuse, c'est ça, mais c'est n'importe quoi, en fait. J'ai trouvé ça du grand n'importe quoi, et c'est comme si, il sait très bien, en fait, qu'il va être au-dessous de la loi, et il sait que, enfin, il imagine et il estime qu'il va pouvoir s'en sortir, et en fait, c'est exactement ça qu'il faut condamner. Et moi, ce qui me fait peur, en fait, dans ces histoires-là, c'est qu'il y a toujours de la récidive. C'est qu'en fait, Moa La Squale, c'est pas une fois qu'il l'a fait. Comme Chris Brown, c'est pas une fois qu'il a tapé une femme. R. Kelly, c'est la même. Enfin, il y a plusieurs personnes dans les musiques actuelles qui ont commis des crimes et qui l'ont refait parce que justement, ils sont pas allés en prison, donc ils ont pas été condamnés. Et en fait, du coup, on est encore en train de dire que c'est acceptable et on est en train de mettre en danger la vie des femmes qui les entourent. Et là, par exemple, ce qui me fait peur aussi, c'est cette histoire avec Megan Thee Stallion et Tory Lanez, où en fait, apparemment, lui, il a tiré sur elle, mais il va peut-être pas aller en prison, même s'ils disent qu'il risque peut-être 22 ans de prison. Lui, il a fait un album où il parle de ce qui s'est passé. Dans une des chansons, il dit « De toute façon, j'ai 10 millions de gens derrière moi ». Donc en fait, en gros, il est en train de dire « Ouais, je t'ai pas tiré dessus, mais de toute façon, j'ai 10 millions de gens derrière moi qui vont me soutenir, et donc même si je t'ai tiré dessus, bah, en fait, ce soutien-là fera que j'irai nulle part. » Et c'est en mode, bah, non, en fait. Donc, on met en danger la vie des femmes et on cautionne ça et on fait rien. C'est juste pas possible. Et en plus, pour moi, c'est avec ce type d'exemple qu'il faut montrer ce que la loi peut faire et ce qu'elle doit faire pour qu'on puisse après protéger. Si ces gens-là vont pas en prison, on peut pas dire après, ouais, les filles, quand on vous tabasse à la maison, allez porter plainte. Bah non, parce que quand on porte plainte, si en plus t'es une star à la télé que tu portes plainte, si on porte plainte contre toi et tu vas pas en prison, c'est pas mon mari avec qui je suis depuis 15 ans qui va aller en prison. Enfin, on est en train de donner une très mauvaise image de comment la loi fonctionne et pour moi, c'est très dangereux.
En tant qu'auditrice et auditeur, qu'est-ce que tu conseillerais du coup de ne plus écouter ces artistes-là, de ne plus acheter leur musique?
Ouais, je suis à 100% pour le boycott parce que je trouve que c'est le seul moyen qu'on a de pouvoir contrôler où l'argent va pour qu'ils aient pas le moyen de pouvoir s'échapper dans d'autres pays, pour qu'ils aient pas le moyen de prendre des gros avocats. Et après, oui, les unfollow sur les réseaux, sur Instagram. Pour moi, Instagram aurait dû fermer la page de moi à la squale en regardant son dernier post parce que c'est une blague. Enfin, bah, là, ils se moquent même du système judiciaire, c'est pas normal. Il y a 5 femmes qui portent plainte contre lui et il dit ouais, elles sont amoureuses. Non mais c'est juste une grosse blague. Donc pour moi, Instagram aurait dû déjà fermer la page de moi à la squale. Et je comprends pas pourquoi il y a des gens, même dans mes contacts, qui suivent encore ces pages. Peut-être qu'ils se disent bon, je veux suivre, voir ce qui se passe. Mais c'est encore pire. Et après, c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont beaucoup critiqué dans ce post, qui l'ont insulté et tout. Mais c'est pas non plus la solution. Mais il faut vraiment qu'ils puissent soient punis pour les actes qu'ils ont commis, quoi. C'est super important.
J'ai l'impression, moi, quand même, que aux États-Unis, bon, on compare toujours, hein, mais là, c'est le cas parce qu'il y a des artistes américains dans la liste. Il y a quand même plus de réactions de la part de la justice, puisque R. Kelly, lui, a été inculpé. Il est actuellement en prison. Chris Brown, mm-hmm. Il est coupable. C'est avéré qu'il a été violent avec deux anciennes compagnes au moins. En France, est-ce que j'ai l'impression que le système est encore trop lent, peut-être, ou qu'on n'a pas encore ce même réflexe de judiciariser tout de suite ces accusations-là. En tout cas, ça reste de l'ordre des accusations sur les réseaux sociaux.
Ouais, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire en France pour accélérer les choses, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a des gros... Comment dire, enfin, comme c'est déjà au niveau des États, il y a peut-être plus de pression qu'on peut faire au niveau local. Je ne sais pas trop comment, eux, ils ont réussi à mettre plus la pression pour que les choses soient accélérées. En tout cas, en France... on est encore en train de beaucoup protéger, surtout les hommes artistes qui commettent des crimes. Et je trouve que c'est totalement hypocrite par rapport à ce qu'on dit après dans les écoles, dans l'éducation. Enfin, c'est très beau d'avoir une journée le 8 mars où on dit oui, on protège les femmes, c'est bien. Et qu'après, il y ait des cas comme ça et qu'on ne fasse rien. Et je trouve ça très, très, très dangereux pour les générations qui arrivent. Surtout avec l'explosion du rap en France et le fait que maintenant il y a beaucoup de rappeurs qui s'enrichissent avec le rap. Et ben en fait, on est en train de laisser les portes ouvertes à plein de choses. Et moi, c'est ça qui me fait peur.
Le deuxième sujet dont tu voulais parler n'est pas si éloigné que ça du premier que tu viens d'évoquer. Il s'agit de la polémique récente sur la tenue des lycéennes. Donc, ces lycéennes et collégiennes qui avaient lancé le hashtag lundi 14 septembre pour dénoncer les injonctions vestimentaires qu'elles subissent à l'école, en fait. Du coup, elles ont décidé de s'habiller en short et en jupe pour protester contre toutes ces règles sexistes. Et ce mouvement a suscité plein de réactions dans les médias et dans la classe politique, et notamment de notre ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui a demandé aux jeunes de venir, je cite, « habiller d'une façon républicaine à l'école ». Et donc, il y a eu beaucoup de détournements assez drôles, d'ailleurs, sur les réseaux. Et voilà, donc toi, tu avais envie de parler de cette fameuse tenue républicaine exigée.
Oui, en fait, j'étais très choquée par les propos que j'ai pu entendre à la télé ou en radio, tout ça, parce que j'aurais jamais cru qu'on... Enfin, maintenant, oui, mais il y a quelques années, quand j'habitais en Espagne et quand j'ai regardé ce qui s'est passé en France, pour moi, la France, c'était un pays super évolué, enfin, très progressiste, qui était ouvert sur plein de choses. Et aujourd'hui, quand je vois qu'on est en train de perdre du temps avec des débats comme ça, alors qu'il y a le Covid, alors qu'il faut protéger les jeunes de plein d'autres choses, les réseaux sociaux, la technologie, enfin, il y a tellement d'autres sujets qu'on pourrait aborder. On est en train de perdre du temps avec ces tenues qui seront non républicaines apparemment, et c'est aussi le message qu'on est en train de renvoyer aux filles. Quand on leur dit qu'elles sont provocantes, qu'elles sont indécentes, qu'elles vont pas dans le bon sens, en gros, on est en train de les marginaliser, on est en train de dire qu'en fait elles sont pas normales, elles sont en dehors de la norme, elles sont pas pudiques. Et en fait, on est en train d'encore les culpabiliser et remettre la faute de plein de choses sur les femmes. Et je trouve ça extrêmement violent. Et je suis très fière des jeunes filles qui ont pu, tu vois, prendre la main sur les... Enfin, comment dire, prendre la responsabilité de faire quelque chose le 14 septembre. Voilà, de dire, bah non, nous, on est éveillés, nous, on sait ce qui se passe. Et nous, on a le droit de s'habiller comme ça. Parce que je pense que ma génération aurait eu beaucoup plus de mal à le faire. Parce qu'on est encore très dans la culture de vas-y, il faut qu'on se protège avant tout. Mais cette nouvelle génération, on voit qu'elle ne se conforme pas. Et donc, c'est très cool qu'elles y aillent et qu'elles sortent et qu'elles imposent le respect. Parce que je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on puisse penser que le respect dépend des vêtements. Parce que pour moi, on m'a toujours dit, en fait, tu peux être habillée comme tu veux. Les gens, ils méritent de te respecter parce que tu es une personne. Point. Tu peux être nue dans la rue. Enfin, les gens, ils doivent te respecter parce que tu es une personne. Il n'y a pas de jupe, de décolleté, de ventre à l'air. En fait, on s'en fout. C'est tu respectes la personne. Et quand on est en train de dire qu'en fait, on peut te manquer au respect parce que tu es habillée d'une façon ou d'une autre et que du coup, ça implique que les filles, ben, on est encore en train de renvoyer les filles vers le silence, tu vois, vers l'insécurité. Parce que le fait qu'on nous dise qu'on est courageuse parce qu'on porte une jupe dans le métro, ou qu'on est courageuse parce qu'on porte un crop top à l'école, enfin franchement, ça, les gens ils sont en train de dire, bah en fait vous êtes en danger. Donc en fait c'est ça sur lequel il faut travailler, c'est sur l'insécurité que nous on vit au quotidien, c'est pas sur le fait qu'on soit habillé ceci comme avec tel habit ou pas, c'est l'insécurité, c'est le sentiment d'insécurité avec lequel on vit tous les jours, c'est l'harcèlement qu'on subit tous les jours, c'est les actes qu'on nous rabaisse qui affectent notre estime de soi. Et notre liberté d'expression tous les jours, c'est ça qu'il faut travailler. Et par exemple, j'ai vu des garçons au Québec qui avaient sorti des photos où ils étaient allés à l'école habillés en jupe, et tout le monde les a applaudis. Mais du coup, les filles qui sont allées en crop top et en jupe, on les a pas applaudis, au contraire, on les a punis. Et je trouve ça tellement hypocrite. Et encore une fois, je trouve qu'on renvoie aux filles un message trop négatif et trop dans la comment on dit, dans la culpabilité, dans la négativité, en mode oui, c'est vous le problème, c'est vous le problème, vous n'avez pas à vous habiller comme ça. Ce qui m'a beaucoup choquée aussi, c'est les commentaires dans les vidéos que j'ai pu après retrouver ou dans les articles où ils disaient ouais, mais il faut enseigner à vos filles à pas s'habiller comme des putes ou pardon, je sais pas si on peut dire de gros mots.
On peut tout dire.
Ah ouais, d'accord, ok. Faut enseigner vos filles à être pudiques et tout ça. Mais les jeunes, ils n'ont rien compris, en fait. Et je suis très choquée qu'en 2020, on puisse encore débattre sur ça. Je trouve ça tellement loin et tellement basique. Enfin, je comprends pas les gens qui peuvent encore penser comme ça, en fait. Et des gars qui disent, ouais, mais si la meuf, elle est habillée comme ça, bah, je regarde et je fais des commentaires, bah, c'est pas ma faute, c'est elle. Elle avait juste à s'habiller différemment. Je pense que ça vient aussi de comment on voit le genre en France, qu'on est, le fait qu'on soit beaucoup sur la dichotomie, qu'on perçoive le genre en mode bah, les femmes sont d'un côté, l'homme est d'un côté. Alors que si on le pensait plus comme une continuité, comme si les genres, bah, en fait, c'était un continuum où un jour tu pouvais être plus masculine et un autre jour tu pouvais être plus féminine et qu'on soyait tous sur cette fluidité, bah, peut-être qu'on ne ferait pas autant la séparation. Et qu'on pourrait dire bah, un garçon, bah, il est venu en petit short, bah, c'est cool aussi. Bah ok, le gars il est venu en crop top ou le gars est venu maquillé, bah c'est cool, la meuf aussi. Enfin, il n'y a pas de différence, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut et on accepte tout le monde. On serait beaucoup moins sur le jugement, on serait beaucoup plus sur le respect, l'acceptation de l'autre. Mais en tout cas, avec cette dichotomie qui sépare vraiment les rôles et qui sépare la culpabilité, qui sépare la responsabilité, c'est toujours le même la même catégorie sociale qui est en défaveur, et c'est celle des femmes. Et je trouve ça très dangereux et très violent.
Et ces deux poids, deux mesures dont tu parles, notamment avec les garçons qui sont venus en jupe au Québec, c'est aussi un débat qu'on retrouve sur les réseaux sociaux avec les tétons des femmes qui seraient indécents et ceux des hommes qui ne seraient pas du tout indécents. Et d'ailleurs, j'ai vu que tu en avais fait les frais de ça aussi, toi, sur Instagram. Comment tu te positionnes quand ça te touche directement ?
Je pense que des fois, pour l'instant, il y a des choses que je suis en train de préparer pour le futur où on pourra vraiment mettre en avant les tétons, mais tout en échappant au code, parce que si on regarde, en fait, sur Instagram, c'est des machines qui vont aller détecter les tétons. Et en fait, ils ont des machines avec des algorithmes qui sont prêts à reconnaître quels les tétons des femmes. Donc, en fait, il y a moyen de peut-être, tu vas recouper les tétons des garçons et les remettre sur tes tétons, sur les tétons des filles, pour que ça reconnaisse pas la forme, la couleur, etc. Ou le mettre, par exemple, en rouge ou en violet. Comme ça, on voit toujours la forme, on voit que c'est ton téton, mais c'est dans une autre couleur. Du coup, les machines vont pas forcément les détecter. Et c'est horrible parce que maintenant, je suis en train de passer du temps à regarder comment je peux contourner des algorithmes alors que c'est mon corps naturel de base. Et ils ont pas à me censurer par rapport à un truc que j'ai pas choisi moi. C'est mon corps qui a été formé comme ça et c'est un truc complètement naturel. Mais je trouve que si on n'y fait rien, c'est comme si on accepte. On accepte le fait que ça soit censuré. On accepte le fait qu'on sexualise nos tétons. Et encore une fois, c'est comme une aliénation du corps de la femme. En mode, non, soit c'est sacré, soit c'est trop sexuel. Donc, en fait, non, on va les garder dans l'armoire là-bas pour que personne les voit. Et c'est fini. Alors que non, il faut que nous, on s'expose de plus en plus, qu'on normalise les corps, les différents types de corps. Les parties qui sont sexualisées, il faut qu'on les normalise parce que on peut pas être tout le temps sexualisé. C'est pour revenir à la tenue républicaine, c'est une des problématiques quand on parle des jupes et des crop tops et des décolletés. En fait, c'est parce qu'on sexualise. On a un regard sexualisant et très pervers sur les corps des femmes. Et ce qui fait que finalement, c'est elles qui en souffrent parce que c'est elles qui sont obligées de se cacher, c'est elles qui sont en danger quand elles montrent un peu de leur peau. Et c'est ça, c'est une soumission, involontaire qu'on nous fait subir. Et moi, je suis contre ça. Je veux pas qu'on subisse ça. Je pense que je l'ai déjà assez subi dans mon passé. Je viens d'une famille très catholique où on nous a dit qu'il fallait être très pudique. Moi, j'ai sorti un single il y a pas très longtemps là qui s'appelle Mini Jupe. Et justement, j'ai choisi d'écrire cette chanson là parce qu'on m'avait toujours dit que ma jupe fallait qu'elle soit au niveau de mes genoux. Il fallait pas que je porte des jupes plus courtes. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis incapable de mettre une jupe. Parce que je suis pas bien, je sens que je suis à poil. Et aujourd'hui, j'ai envie de mettre des mini-jupes, mais je suis incapable. Et je me dis que j'ai 28 ans, c'est pas, si je le fais pas maintenant, je vais jamais le faire. Et moi, ça m'a créé des traumas, ça m'a créé des peurs. Et aujourd'hui, je travaille activement pour les résoudre, mais c'est des choses qui nous font beaucoup de mal. Et les gens se rendent pas compte, en fait, à quel point ça va être blessant de vivre ça tous les jours.
Justement, on va écouter tout de suite ce troisième extrait donc, qui s'appelle Mini Falda et qui est sorti donc la semaine dernière. Et on écoute et on en parle juste après.
Pantalones pa' que estalle y no te raye. Que la culpa es del oro, no el del ladrón. Es que raro suena cuando cambian los detalles. Te tienen tan consentido, tan complacido, tan asistido, tan todo tan mentido como gas. No somos como agua y el vino, somos cuerpo divino. No me empuja el abismo y pa' atrás. La imagen que da cuando me miras, fuego a tu gas. Esto no es un disfraz, no sigo tu compás direccional. Que hasta la mente más cerrada que esta minifalda. No es culpa de mi minifalda. Si todos fuésemos santos, por ahora mira bien de dónde viene el llanto.
pas ma main, t'as non c'est fal, t'as face à tram, pas para cuanta, pero en serio ya, dejan pa mi mini falda. No es culpa de mi mini falda, no es culpa mía. No es culpa de mi mini falda, no es culpa de mi mini falda.
Tu étais en train de dire en gros que le problème, c'est pas forcément, c'est même pas du tout le short ou la jupe ou le crop top, c'est vraiment le regard que les hommes ou les adultes vont poser dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, du coup, d'après toi, pour changer ce regard qu'on porte sur les jeunes filles qu'on va hypersexualiser très tôt ?
Je pense que il faut qu'on accepte de plus en plus le cross-dressing, tu vois, le fait de pouvoir jouer avec les codes vestimentaires du sexe opposé, qu'on puisse accepter de plus en plus qu'il y ait des garçons porter des jupes ou des robes ou qui se maquillent, qu'ils mettent du vernis, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on commence à voir. Par exemple, avec Bad Bunny qui s'est habillé en fille pour son clip, etc. On commence à pas mal en parler en ce moment. Mais c'est des choses qui sont encore très, très, très critiquées. Je pense que ça, c'est une des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille vraiment, parce que si un garçon porte une mini-jupe et qu'on le sexualise pas, ben, en fait, là, on se rendra compte que le problème, ça vient pas de l'habit, en fait, du vêtement. Ça vient vraiment du corps qui est derrière. Et c'est là où on pourra commencer à déconstruire. Je pense qu'il y a un travail de déconstruction qu'il faut faire, mais qui est énormissime. Dans toutes les générations, tous les gens confondus, à l'école, mais aussi pour les parents. Parce que c'est vrai qu'on me dit souvent, ouais, ce qu'il faut, c'est éduquer les jeunes. Mais ok, les jeunes, c'est bien de les éduquer. Mais en fait, aujourd'hui, les personnes qui font du mal, c'est les adultes. Donc, c'est les adultes qui critiquent, c'est les adultes qui vont faire passer des lois à la con, c'est des adultes qui vont aller harceler des filles dans les transports. Et en fait, il faut surtout éduquer les adultes et punir des choses qui ne sont pas acceptables, et punir le vocabulaire qui est utilisé, changer la façon de s'exprimer. Par exemple, changer l'imaginaire qu'on a autour des vêtements aussi. Dans mon clip de Midi Falda que j'ai sorti la semaine dernière, j'ai fait un parallèle avec un cas qu'il y a eu en Irlande en 2018, il me semble. Dans mon clip, j'ai fait une espèce de pluie de sous-vêtements, parce qu'en Irlande, il y a quelques années, en fait, une avocate avait essayé de faire passer, elle avait essayé de justifier le viol de son client en disant que la victime portait un string. Et quelque chose que j'ai trouvé complètement insultant. Parce qu'on a le droit, encore une fois, de mettre les sous-vêtements qu'on a envie sans que ça soit un appel, une invitation à un viol. C'est juste des trucs, pour moi, c'est logique, mais pour les gens, ils cherchent toujours une excuse. Alors qu'un viol, le seul responsable du viol, c'est le violeur, point. Il n'y a pas d'autre chose à chercher, mais c'est encore cette chose où il faut enlever la responsabilité de l'homme, parce qu'il faut toujours protéger les hommes, alors qu'en fait... Du coup, on va remettre toute la faute sur la femme, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Nous, on est victime de plein de choses, on subit plein de choses, et on n'est jamais, on n'a jamais justice, on n'a jamais on va jamais être protégé comme on devrait. Et je pense qu'il faut arrêter. Je cherche des solutions, on va dire que je participe à beaucoup de groupes de parole et beaucoup de débats actifs où on cherche tous des solutions. Je pense que les seules solutions, c'est d'en parler de plus en plus, de faire pression auprès des instances où il y a les lois et les jugements qui se passent pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, renvoyer les bons messages, faire pression auprès des médias pour qu'ils changent la manière dont ils parlent de certains problèmes, qu'ils utilisent le bon vocabulaire, etc. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire, et il faut que ce soit un travail collectif, parce que en tant que militante, on peut pas tout faire. Et c'est des débats, enfin, c'est des sujets avec lesquels on vit au quotidien. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, je sais que j'en ai un peu marre d'écouter des histoires d'harcèlement et des histoires de viol tous les jours. Je sais que ça fait partie de la réalité et je vais jamais dire non à quelqu'un qui veut souffrir à m'en parler de ça, mais j'ai juste envie et qu'on arrête de souffrir en tant que femme. J'ai juste envie que mes sœurs, mes tantes, ma mère et les jeunes filles qui arrivent après, on ne souffre pas. Et en fait, j'en ai marre d'entendre, donc en fait, on va souffrir encore pendant des années. Et s'il y aurait une solution miracle, je pense qu'on aurait déjà tout fait pour la mettre en place, mais malheureusement, c'est encore compliqué.
Tu m'avais dit en interview en 2018, je crois, que d'après toi, pour beaucoup de gens, c'était un problème d'être féministe et de faire du rap. Est-ce que tu as l'impression que ça a changé aujourd'hui ou que c'est toujours la même chose ?
Je pense que ça s'est un peu décoincé avec le mouvement de MeToo, mais c'est quelque chose qui reste encore assez... On va dire que les gens étaient catégorisés très vite et surtout qu'aujourd'hui, il y a plein de branches dans le féminisme. Et du coup, ça peut être très confus pour les gens. Ça m'est déjà arrivé d'aller en atelier, donc de parler du féminisme, de parler des approches, etc. Et d'avoir des jeunes qui me disent mais madame, aujourd'hui, je ne sais même pas ce qu'elles veulent, les féministes. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que je ne sais pas ce qu'elles veulent. Et je leur dis, en fait, c'est simple, on veut juste la liberté, on veut juste l'égalité. Et ils me demandent, en fait, oui, mais est-ce que dire qu'il faut enlever le mot mademoiselle, est-ce que ça a vraiment d'importance? Et du coup, je leur explique que c'est un tout, c'est vraiment un truc qui est très complet, que le vocabulaire est important, mais aussi important que les lois, aussi important que les politiques et tous les comportements sociologiques et tout ça, que c'est un tout qu'il faut vraiment regarder chaque détail, c'est très complexe. Mais on est, pour moi, sur la première génération, même si le féminisme, ça date depuis longtemps, on est sur la première génération où on peut vraiment parler ouvertement, ça, on en parle à l'école, on en parle dans les médias, on en parle de partout. Et aujourd'hui, limite, si tu dis que t'es pas féministe, ça peut être très critiqué aussi. Donc ça, c'est le seul truc positif que je peux commencer à voir. J'ai justement changé des gens autour de moi. J'ai commencé à travailler avec des gens sur Paris qui n'étaient pas du tout dans cette démarche. Et quand en fait ils commençaient à exposer ces idées, tout de suite on lui disait mais non, là tu dis n'importe quoi. Donc ça c'est cool qu'il y ait des gens soi-disant pas militants, mais qui commencent à prendre parti en disant là ça va pas du tout ce que tu dis. En fait, non, c'est très. Ça va pas en fait, c'est très discriminant, c'est très sexiste. Et du coup, c'est cool qu'il y ait des gens qui ne sont pas forcément militants, mais qui commencent aussi à prendre parti. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour que le mot féministe soit vraiment accepté, qu'on arrête de nous dire qu'il faut utiliser plutôt le mot égalitariste et plein de choses. Et qu'après, les féministes entre nous, on puisse aussi se mettre d'accord sur une longueur d'onde, même si c'est très compliqué, parce qu'on pourrait dire qu'il y a autant de féminisme comme il y a des femmes. J'ai souvent ces débats avec mon frère, qui est quelqu'un de très ouvert au féminisme aussi, et qui me dit souvent, moi, j'ai pas envie d'utiliser le mot féministe parce que je veux que ce soit vraiment quelque chose de porté par les femmes. Et si une femme me dit des propos sexistes, moi, je peux pas lui dire qu'elle est en train d'être sexiste parce que c'est une femme. Et je lui ai dit, en fait, tu peux lui dire qu'il y a d'autres façons de voir les choses et que toi, on t'a expliqué ce système-là, qu'est-ce qu'elle en pense de ça, plutôt ouvrir le dialogue au lieu de la questionner sur sa forme de voir le sexisme. Mais c'est encore dur, il y a encore trop de nuances sur comment on dit quoi, quel mot on utilise, qu'est-ce qui peut être mal pris, qu'est-ce qui peut être offensif. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à regarder, c'est pas facile à porter au quotidien, en parler. Même il y a des gens, je vois qu'ils essayent de faire des efforts, mais c'est pas encore facile pour tout le monde.
Le troisième thème dont tu voulais parler est décidément lui aussi en lien avec les deux précédents. Tout est lié, puisque tu avais envie de parler, pour citer tes mots, de la grosse guerre féministe contre les TERF qui est en train de prendre de l'ampleur. Mm-hmm. Pour expliquer rapidement juste le terme TERF, T-E-R-F, donc c'est l'acronyme du mot anglais Trans Exclusionary Radical Feminist, qui désigne donc des militantes féministes qui sont jugées transphobes ou qui excluent les droits des personnes trans de leur combat. Et c'est un terme qui a été créé par des militants de trans et qui est souvent perçu par celles qui le reçoivent comme une insulte, même s'il ne l'est pas à la base. Et récemment, il y a eu plein de polémiques qui ont un peu vulgarisé ce terme, qui était avant plutôt du jargon militant ou qui était très courant dans le milieu féministe, mais qui n'était pas connu du grand public. Notamment parce qu'il y a la romancière britannique J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter, qui a été accusée de publier des messages transphobes sur Twitter en disant que pour... une personne qui a ses règles est forcément une femme, ou en faisant le lien entre le genre d'une personne et ses organes génitaux, enfin, etc. Et voilà, en gros, c'est l'opposition entre un féminisme un peu universaliste et un féminisme plus intersectionnel ou queer. Pourquoi tu avais envie de parler de ce sujet-là ?
Oui, c'est quelque chose qui me tracasse au quotidien maintenant parce que c'est très dur de prendre position. Alors, quand je dis ça, moi, je suis à 100% pour. Pour moi, les femmes trans sont des femmes. Moi, je dirais jamais le contraire. Mais par contre, c'est vrai que dans le détail, les TERFs, ils ont fait ressortir des choses sur lesquelles il faut s'épancher. Je dis pas que, en fait, tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais il y a certains détails sur lesquels il faut plutôt mieux regarder et mieux trouver des solutions. Par exemple, quand on parlait des, par exemple, les histoires sur le sport, où, par exemple, il y a des femmes trans qui, du coup, ont eu des meilleurs résultats que d'autres femmes cisgenres. Et en fait, on voit qu'il y a vraiment un décalage par rapport à la biologie des femmes trans. Et du coup, il y a une injustice par rapport à ça. Ou par exemple, le cas qu'il y a eu où, en fait, on a enlevé le symbole des femmes sur les serviettes hygiéniques parce qu'on voulait inclure aussi les femmes trans dans ce truc. Mais du coup, on invisibilise un peu les corps des femmes. Ou par exemple, là, quand on parle du cancer de l'utérus, on dit que c'est toutes les... On dit plus c'est pour les... Enfin, c'est les femmes qui sont affectées. On dit c'est les personnes qui ont des utérus qui sont affectées. En fait, il y a encore plein de nuances à faire au niveau du vocabulaire et tout ça. Donc, il faut suivre tous les jours quels sont les bons trucs à dire et quels sont les mauvais trucs à dire, sur quoi il faut faire attention. Moi, je suis à 100% pour un féminisme qui soit inclusif à fond. Mais je me demande comment on peut retrouver quelque chose qui soit juste pour tout le monde. Parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup de travail pour que les corps des femmes soient représentés, pour qu'on en parle de plaisir féminin, pour qu'on en parle de PMA, de IVG, de viol, et de tous ces problématiques qui concernent les corps des femmes. Et du coup, maintenant, on arrive avec une autre catégorie de femmes, mais qui n'ont pas forcément ces problématiques-là. Donc, comment on peut traiter les deux sans invisibiliser aucune? Moi, c'est ça la question que je me pose. Je pense qu'on est peut-être encore une fois sur une première génération qui a à traiter une problématique si vaste que celle-ci, et on va peut-être trouver des solutions au fur et à mesure. Mais je pense que pour moi, une des solutions, c'est vraiment de ne pas penser au genre comme une dichotomie, et plutôt de la penser comme une fluidité, comme un continuum. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout le temps penser comme ça, parce que ce n'est pas la réalité. De comment le monde est vu aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est vu depuis le point de vue d'une dichotomie. Et du coup, quand on parle de fluidité, bah, en fait, on invisibilise encore les problématiques des femmes, etc. Donc, moi, je suis en plein questionnement. Je suis en train de me poser plein de questions sur comment moi-même, je peux des fois être discriminante par rapport aux termes que j'utilise. Mais j'essaie de me corriger à chaque fois pour inclure au max les femmes trans. Mais c'est encore compliqué parce que c'est une nouvelle problématique qui se rajoute. Et elle doit être traitée, il faut qu'elle soit écoutée, il faut qu'on arrive à adapter les lois ou par exemple les services de protection, parce que bien sûr les femmes trans, elles ont subi énormément d'harcèlement et des violences sexuelles aussi, et il faut les protéger, il faut qu'on soit à leur écoute. Mais je comprends que dans des refuges de femmes battues, il puisse y avoir des femmes qui ont peur parce qu'il y a quand même des femmes trans qui ont encore des organes génitaux masculins. C'est une problématique à laquelle on ne va pas forcément y penser, mais que je peux comprendre. Dans les prisons, c'est pareil. Dans les toilettes, c'est pareil. Et à quel point est-ce que ça peut ouvrir la porte à des vrais harceleurs ou des vrais hommes qui voudraient utiliser ça juste comme une excuse, se traverser juste pour une soirée et aller vraiment faire du mal à des femmes? C'est des questions que je me pose. Il y a des trans qui ont vécu des choses vraiment, vraiment, vraiment fortes. Et pour moi, ils pourront jamais faire du mal. Au contraire, je les considère plus comme des alliés et des gens de notre famille, de féministes. Mais je comprends qu'il puisse y avoir des femmes qui puissent avoir peur ou qui veuillent faire une séparation entre les deux. En tout cas, moi, je suis en plein questionnement. C'est une question que j'ai aussi beaucoup incluse dans mon clip que je viens de sortir. J'ai beaucoup joué sur le cross-dressing, sur la culture drag. J'ai inclus beaucoup de personnes trans dans mon clip parce que j'ai vraiment envie d'être là et de soutenir leurs problématiques et leurs causes. Et je veux qu'ils et elles, les hommes trans aussi, qu'ils soient tous mis en avant. Mais du coup, je me pose la question sur comment bien faire mon travail de militante, bien avoir une approche intersectionnelle, mais tout en respectant tout le travail qui a été fait depuis des années par des féministes. Pareil, il y a des gens qui m'ont envoyé des blogs féministes d'Instagram et ils m'ont dit, en fait, regarde, tu devrais pas les follow parce que c'est des TERF et tout ça. Je suis là en mode, ok, je suis d'accord que c'est pas ouf que ça soit des TERF, mais quand même, les travail qu'ils font, elles méritent d'exister, elles méritent d'être soutenues. Moi, j'ai découvert plein de choses grâce à ces pages-là. Et j'ai envie de continuer à soutenir parce que c'est des femmes d'abord. Mais c'est vrai que pour ça, il faudrait qu'on mette autant en avant les féministes de couleur et les féministes transactivistes pour qu'il y ait vraiment une piscine remplie de plein de façons de voir la femme au lieu que de mettre en lumière que les féministes. Mais c'est encore un travail qui va prendre des années parce qu'on le sait très bien que les féministes blanches, elles seront plus entendues que les féministes noires, par exemple, ou des féministes LGBT.
J'ai l'impression que c'est ce qui blesse les femmes trans, c'est que ce sont des femmes cisgenres qui décident ce qui est une femme ou pas, en fait, c'est ça. Et que elles, ces femmes trans, disent « moi, je me sens femme, je suis femme ». Et ce n'est pas à quelqu'un d'autre de définir qui je suis, c'est toujours ce problème de l'autodétermination et de quelqu'un d'extérieur qui va te dire ce que tu es à ta place, en fait. J'ai l'impression que c'est de là que part cette grosse crispation et après des violences qui font que… des terres se font aussi insulter sur les réseaux, menacer. Et ça, ça peut pas être. Enfin, quand on est féministe, c'est difficile de cautionner, je veux dire. En tout cas, dans mon réseau, donc ce que je peux voir dans les médias, la parole est plus donnée aux terres qu'aux autres féministes. J'ai pas l'impression que les féministes queer, intersectionnelles, trans soient autant visibilisées et autant accès aux grands médias et autant une parole relayée que les autres. Et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui crée encore plus de crispation, quoi.
Ouais, voilà, c'est exactement ça. C'est en fait quand je parle de guerre, pour moi, c'est plutôt une guerre interne parce que moi, j'ai fait partie plutôt des féministes de couleur, pas forcément LGBT, mais je suis beaucoup avec des féministes activistes LGBT et elles me mettent la pression pour que du coup, je soutienne pas les TERF justement parce que c'est les TERF qui ont le pouvoir dans les médias et qui ont ce privilège d'être blanches et assez dans une bonne catégorie sociale et du coup, ils sont mieux plus écoutés que d'autres, et du coup, elle me demande de prendre position parce que moi, du coup, j'aurais un pouvoir par rapport à ma musique, ma plateforme et tout ça. Sauf que moi, j'ai du mal à prendre position parce que je trouve que toutes les différentes branches, elles méritent d'exister, même si, ouais, c'est les problématiques des femmes blanches bourgeoises qui sont encore mises en avant et c'est là où je veux qu'on ait plus de visibilité en tant que femme de couleur, femme immigrée, femme LGBT, femme trans, etc. C'est ça que, moi, quand je parlais des guerres, c'était plutôt ça. C'est de la pression qu'on peut mettre sur des féministes pour qu'elles boycottent les TERF, en fait.
Et toi, du coup, tu es sollicitée pour prendre la parole sur ce genre de thématique, par exemple ?
Ouais, je suis sollicitée plutôt pour prendre position et boycotter, déjà. Et après, on me demande souvent ce que je pense et tout ça. Et comme c'est des questions tellement complexes sur lesquelles je n'ai pas forcément le temps de tout le temps me renseigner, le vocabulaire change tout le temps, il y a toujours de nouveaux termes qui sortent, il faut toujours suivre quelles sont les différentes problématiques, les couches qui sont rajoutées, les nuances. Je décide de pas forcément tout le temps prendre la parole parce que je suis pas assez renseignée sur toutes ces questions-là. Mais du coup, je me suis dit qu'avec l'interview d'aujourd'hui, c'était l'occasion pour en parler et prendre position. Sauf que du coup, là, je l'ai prise sans la prendre, vraiment, mais c'est pas plus mal.
Et avant de se quitter, j'ai une dernière petite question. Donc, on parlait de ton clip Mifalda qui est sorti il y a quelques jours. Est-ce que tu as d'autres projets pour les prochains mois, malgré le contexte sanitaire ?
Oui, donc nous, on s'arrête pas. Hein. C'est pas le Covid qui va nous arrêter. On est en train de bosser sur le deuxième album. Donc il y aura d'autres singles, j'espère un autre single qui sortira avant la fin de l'année et d'autres singles qui sortiront au printemps. En tout cas sur ce projet, sur ce deuxième projet, je me suis vraiment plus lâchée. C'est vrai que sur le premier, j'étais encore en train de définir qui j'étais, même au niveau des médias, je voulais que tout soit clair, alors que sur le deuxième, je prends beaucoup plus de risques. Au niveau de ce que je raconte, au niveau de ce que j'ai dit en termes musical, mais aussi au niveau de ce que je raconte dans les clips, en termes d'image aussi, du coup, ça va être beaucoup plus puissant. Peut-être que je vais me faire encore plus critiquer, mais c'est pas plus mal parce que je pense que là, je vais défendre des vrais trucs et ça va pas mal faire parler et je trouve que c'est ça qui est intéressant.
Très bien. merci beaucoup, Tracy, et bon courage pour tous tes projets et à très vite.
Et merci à vous, merci à Madame Rapp d'être toujours là et de faire autant de travail pour toujours nous mettre en avant et de toujours être à l'écoute et de toujours être là pour soutenir et partager tout. C'est un travail de ouf, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je sais pas comment tu fais. Mais encore merci, merci, merci.